Est-ce qu'il vous arrive de prendre la mesure de votre propre bonheur? Dans les enquêtes publiées régulièrement, les relations sociales et familiales jouent un grand rôle dans le fait d'être heureux. Également aussi quand on a le sentiment d'avoir une certaine maîtrise sur les choses, sur sa vie. Dans l'ensemble, les deux tiers des Français se disent satisfaits de leurs conditions de vie. Pourtant, il est rare qu'on se déclare heureux. C'est vrai, en se disant bonjour le matin, on pourrait dire « Es-tu heureux ?» Mais finalement, ce n'est pas une salutation qu'on imagine possible. Parce que c'est vrai qu'on se lève le matin, la nuit a pu être bonne ou mauvaise, donc on peut se lever de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Et puis, il faut accomplir un certain nombre de gestes répétitifs du quotidien et on ne se demande pas si on est heureux. Pourtant, le confort de vie de notre pays, la liberté dont nous jouissons, pourrait pourtant en rendre jaloux plus d'un dans des pays moins riches et moins libres que le nôtre. Ah, il y a une petite musique. Alors, je vais en profiter pour vous demander d'éteindre vos portables ou de les mettre sur silencieux si vous avez oublié de les mettre sur silencieux. Comme ça, je ne pense pas que le Seigneur vous appelle par votre portable. Alors la notion du bonheur est subjective évidemment. Parfois notre travail nous satisfait, parfois non. À quel moment est-ce que nous pouvons vraiment nous déclarer heureux? Quand on réussit un examen, une étape de vie importante, quand peut-être au travail on a réussi à dépasser un dossier délicat, quand on est amoureux, quand on va se marier. Le bonheur est souvent une projection. Je pense à celle de l'image un peu idyllique de la famille. On se dit, on va fonder une famille, ça va être le bonheur idyllique. Bon, ceci dit, à voir les statistiques de la natalité qui baissent en ce moment, on comprend qu'une certaine pression s'exerce sur les couples qui voudraient avoir un environnement parfait pour leur enfant. Et c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui de la performance et de la compétitivité. Le bonheur arrive si on l'a mérité, si on a beaucoup travaillé, si on a de l'argent, si on possède le portable ou les dernières nouveautés que tout le monde veut avoir. Si on ne l'a pas, on ne peut pas se dire heureux. C'est fou quand même. Et on apprend à être en compétition dès notre plus jeune âge, les uns contre les autres. Et du coup, on continue dans notre vie d'adulte. On entre dans une certaine loi du plus fort avec les modèles qui nous entourent. Tout ce qui est de l'ordre de la simplicité, de la douceur, de la compassion apparaît comme une faiblesse aux yeux du monde et de la naïveté. Et pourtant, c'est bien le chemin de vie que Jésus nous propose. Il n'a pas peur, lui, de paraître ridicule en déclarant heureux ceux qui, d'après notre société, ne le sont pas forcément. Comment dire heureux quelqu'un qui pleure? Ce récit des Béatitudes montre un bonheur complètement opposé à notre compréhension la plus commune des choses. Jésus constate que le malheur existe. Il est devant ce fait accompli, il a vécu ce malheur et ce mal. Il sait qu'il fait partie de la vie humaine. Les pleurs font partie de la vie humaine, comme la vulnérabilité, l'impuissance. Et dans ce texte des Béatitudes, nous avons une description de certains manques de la vie. Peut-être d'ailleurs que les personnes auxquelles Jésus s'adresse sont des personnes justement pauvres, des personnes qui sont tristes, des affamés et assoiffés de justice, ceux qui n'ont pas de place dans la société et qui traversent des moments difficiles. Ce discours est le premier de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et il va proposer une nouvelle image de Dieu. Une image de Dieu qui va dépasser celle qu'on a entendue dans l'Ancien Testament, dans le Deutéronome, celle des lois. Il a donné une loi. Jésus va dépasser cette image de Dieu, parce que si on donne une loi, on se dit que si on ne respecte pas la loi, on risque d'être puni. Mais ce n'est pas ça. Jésus va nous dire, le Dieu qui vous aime, c'est un Dieu Père. C'est un Dieu qui prend l'être humain, qui prend en compte l'être humain dans ses émotions, dans ses difficultés, dans ses fragilités, dans ses désirs de paix et de justice. Et dans ces phrases, Jésus vient ouvrir un avenir. Un nouvel avenir, une nouvelle perspective, un nouveau chemin. Parce que c'est vrai que quand on pleure, quand on a des difficultés, on se renferme. Et là, il vient proclamer un futur. Et en plus, un futur heureux. Heureux. Alors pour traduire ce mot, certains exégètes ont découvert qu'il y a une racine en hébreu qui évoque l'idée de marcher. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être la traduction d'André Chouraki, un écrivain israélien. Lui, dans sa Bible, il traduit « heureux » par « en marche les pauvres, en marche ceux qui pleurent », etc. Il met les auditeurs dans une dynamique. Jésus ne dit pas que la vie sur terre est facile, il ne balaye pas ces états-là. Il ne dit pas qu'on doit vivre comme si ça n'existait pas, la tristesse, la violence, l'injustice. Mais en fait, il dit qu'il y a toujours un chemin qui s'ouvre, où elles peuvent être traversées, surmontées. Et puis, à chacune des béatitudes correspond un cadeau. Dans le texte précédent, un peu au-dessus du chapitre, Jésus proclame la bonne nouvelle du règne ou du royaume de Dieu. Alors ce royaume et ce règne, on a toujours l'impression que c'est quelque chose qui nous attend après la mort, mais Jésus vient dire non, il y a quelque chose ici et maintenant qui est à vivre. Ce royaume et ce règne, c'est une barrière qui abolit cette séparation entre la vie de l'au-delà et la vie d'ici. Il est le moment, finalement, où Jésus est présent, dans l'ici et maintenant. Il est la vie nouvelle que Jésus apporte et qui commence dès notre vie terrestre. Ce nouvel avenir montre que Dieu connaît toutes choses de notre vie. Il est cette conscience bienveillante qui sait ce que nous vivons, qui connaît les injustices dont nous sommes victimes, les tristesses qui nous accablent, les humiliations que nous cachons, les pardons à donner. Et le cadeau que Dieu nous fait, c'est qu'il nous dit « Rien ne sera oublié. Rien ne sera oublié de ce que vous vivez. » Cela peut prendre plusieurs formes, ce cadeau, en tout cas encadré dans ce texte par la promesse du royaume des cieux, à la première et à la dernière béatitude. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. On a entendu heureux les pauvres de cœur, et dans l'évangile de Luc, il y a aussi ce texte des béatitudes, il dit juste les pauvres. Donc ça peut être une pauvreté matérielle, une pauvreté d'esprit. En tout cas, être pauvre, ce n'est pas un obstacle pour être aimé de Dieu. En fait, quand on est pauvre, on sait qu'on dépend des autres. On accepte d'être lié à Dieu. Cette pauvreté, c'est faire une place pour être accepté d'être dépendant de Dieu, d'être en lien avec Dieu. La richesse spirituelle vient prendre cette place d'une pauvreté qu'on peut vivre dans notre monde aujourd'hui. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Je pense que les pleurs sont un don de Dieu. Et pleurer, c'est accepter de laisser voir notre tristesse, c'est accepter de laisser venir l'émotion. Le mot grec pour le pleur, c'est le pleur du deuil, parce qu'on a plein de pleurs différents, et ça concerne particulièrement le pleur du deuil. Jésus fait la promesse que par sa vie, sa mort et sa résurrection, la mort n'est pas la fin de tout. Mais la tristesse, eh bien, elle nous prend et elle est réelle quand on perd quelqu'un qu'on aime. Elle est à accueillir parce que nous sommes atteints dans notre capacité à aimer. Souvenons-nous qu'un autre nom du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, eh bien, c'est le Consolateur. Oui, il y aura un temps où nous pourrons nous sentir consolés. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. La terre est nécessaire pour vivre, on vit sur la terre. Mais elle ne se prend pas par la force. Certains dans le monde devraient relire cette phrase tous les jours, plus souvent. La terre se recevra dans un partage. Celui qui ne revendique pas par la violence une possession, Dieu lui donnera en partage un lieu où il aura une place. Quelqu'un m'a dit il y a peu de temps qu'il était devenu doux à la suite d'une maladie, alors qu'avant, il était arrogant et cynique. Et devant la vulnérabilité et la dépendance, il est devenu doux. On devient humble face à la vie, dans la vie. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Cette béatitude nous permet d'accepter nos propres limites. Cette faim est d'autant plus grande que nous sommes évidemment témoins de nombreuses injustices dans le monde. Et puis nous aussi, il nous arrive d'être victimes d'injustices. Et nous sommes parfois obligés d'être solidaires de décisions injustes dans notre travail, nos loisirs, que sais-je. Oui, nous sommes confrontés à nos propres limites et des fois, eh bien, on sait que la justice humaine n'est pas parfaite et que ce n'est pas sur terre qu'elle sera rendue. Mais encore une fois, Dieu n'oublie pas. Alors, est-ce que c'est un appel à ne rien faire ? Non, évidemment. Jésus nous encourage à lutter contre les injustices, mais il y a des fois où on œuvre, on lutte, on fait tout ce qu'on peut, et il y a un moment où on ne peut plus. On ne peut pas changer la situation. Tout ne dépend pas de nous. Et du coup, c'est là où on peut se répéter cette béatitude et dire à Dieu, je te confie ce souci, je te confie cette injustice. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Alors la miséricorde, eh bien, c'est la bonté, c'est la compassion, c'est le pardon. On a un Dieu de miséricorde qui nous pardonne. Et c'est vrai que ça arrive juste après la question des injustices. Je me suis dit finalement, les injustices, c'est ce qui peut nous rendre amers, nous mettre en colère. Il faut dépasser nos ressentiments, avancer vers le pardon. Et ça, c'est un chemin de vie difficile. On en a parlé il y a 15 jours. Un chemin de vie qui se niche au cœur de la prière du Notre Père. Apprendre à revenir de notre orgueil, de nos blessures, de nos rancœurs, pour s'ouvrir à Jésus qui a pardonné l'impardonnable. Lui seul peut nous aider à pardonner et à faire miséricorde. Heureux les cœurs purs. Alors quand on arrive à cette béatitude-là, je me demande tout le temps, mais est-ce qu'on peut prendre cette béatitude pour nous-mêmes ? Je ne peux pas dire que j'ai un cœur pur. C'est difficile de s'identifier à elle. Et pourtant, Jésus désigne des cœurs purs, c'est donc qu'il doit y en avoir. Alors j'imagine que ce sont des personnes qui ne pensent pas à mal, qui ne relaient pas les paroles malveillantes. Et je me suis dit que peut-être chacun d'entre nous aussi, de temps en temps, nous sommes des cœurs purs. Et puis, avec la conséquence de voir Dieu, on peut penser à la parole de Jésus qui dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur, alors ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils et filles de Dieu. La paix, nous avons tous soif de paix et le monde a soif de paix. Mais la paix est un véritable travail. Ce travail commence en soi-même pour se diffuser au-delà. Elle se travaille dans nos relations, à petite et grande échelle. Mais elle n'est pas bienvenue par tous. Dans le monde, il existe des médiateurs pour essayer de travailler à la paix dans différents pays. Il y en a beaucoup qui ont été tués parce qu'il y en a beaucoup qui ne voulaient pas la paix. Les artisans de paix seront appelés fils et filles de Dieu. Même si leur vie est malmenée, leur vie en Dieu est préservée. Leur vie est gardée, élevée comme celle du Christ. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Alors avec cette dernière béatitude, nous pensons aux persécutions qui ont touché les chrétiens depuis 2000 ans et malheureusement qui touchent encore les chrétiens aujourd'hui dans certains pays. Alors nous pouvons, pour nous-mêmes, nous on n'est pas persécutés et on pourrait dire persécutés pour notre foi, mais on peut être persécuté pour une autre, voilà, pour la justice qu'on essaye de faire avancer. Et nous avons aussi un rôle à jouer pour faire avancer la justice et pour faire avancer la foi, à nous de rechercher, si on ose, parfois on se censure spontanément, mais peut-être qu'il faut avoir du courage pour oser parler autrement au monde. Alors nous voici à la fin de ces 8 béatitudes dites par Jésus. Et en fait, lui sait bien de quoi il parle, parce qu'il les a vécues, ces béatitudes. Il a été lui-même pauvre, doux, il a pleuré, il a eu faim et soif de justice, il a été miséricordieux. Alors lui, il avait le cœur pur, il a fait œuvre de paix et il a été persécuté, il a été crucifié. La force d'amour de Dieu lui a fait traverser tous ses états pour toucher à un bonheur qui ne vient pas de l'humain. Et ce bonheur est toujours en lien avec la présence de Dieu en nous et avec nous. Lâcher prise, s'ouvrir à ce qui vient, s'appuyer sur Dieu est un chemin qui rend heureux. Jésus nous ouvre un avenir indépendamment des conditions de notre vie et de celles du monde. Réfléchissons à nos plaintes. Jésus nous ouvre un avenir. Quelque chose est promis et donné dès aujourd'hui. Et c'est à vivre dès aujourd'hui. Restons debout et en mouvement. Malgré les souffrances et les soucis que nous traversons, et aux yeux de ceux que nous côtoyons, c'est un témoignage. La gloire en revient à Dieu. Amen.